tout le monde entend bien, c'est bon ?
Oui.
Mais moi, je vais laisser du coup parce que je vais aller faire des allers-retours avec l'écran. Alors, pour commencer, on va d'abord resituer l'œuvre de Hergé. Alors, je me place sur ce côté-là. On va commenter ces deux albums, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, ces deux. Alors, d'abord, on va resituer l'œuvre de Hergé. Alors, Hergé, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, qui est né en 1907 et qui est mort en
1982. Je peux faire une pause.
Oui.
On a avancé, on n'aurait pas dû avancer, on aurait dû reculer plutôt.
Oui,
absolument. Tout à fait.
Hein? On n'est
pas bon.
Alors, on recule.
Eh ouais.
Vous avez entièrement raison.
Oui. Et en plus, c'est moi qui l'ai avancé. Il même, là, il est même trop.
Ouais, c'est bon là.
On le reprend un peu en avant.
Voilà. Alors, reprenons.
On devrait plus avancer aussi.
Hergé. 1907-1983, c'est un des plus grands dessinateurs du XXe siècle, le partisan de la ligne claire. Je crois qu'on est peut-être sur du 200 millions d'albums dans des dizaines de langues différentes. Le premier album, alors pour comprendre l'œuvre de Hergé, premier album, 1929, c'est un pays soviétique, qui a été, on est en 2017, à la fin de l'année dernière, a été entièrement recolorisé. Et rediffusé, puisque depuis que Hergé est mort, aucune nouveauté ne peut sortir. C'était le souhait express de Hergé lui-même, quelques années avant sa mort. Donc, premier album, album de commande, très idéologique. Ensuite, c'est un Congo, qui a pas mal de problèmes, notamment sur la notion de racisme ou pas, qui est tout à fait le côté colonial de la Belgique avec l'Afrique. C'est en Amérique la grande passion de Hergé avec Al Capone, qui est un des très rares personnages réels figurant dans les albums de Tintin. Al Capone. Cigare du Pharaon, je passe. Lotus Bleu, ah, très important. Lotus Bleu, c'est inspiré d'une histoire réelle avec l'invasion de la Mandchourie par le Japon. Donc il y a à la fois l'incident de 1931 à Mukden, qui est très bien relatif dans cet album, avec une grande maturité. L'oreille cassée, c'est sur Basile Larote avec un marchand d'armes. L'île noire. L'île noire, 1938. Pour la première fois, on voit un petit peu le rôle trouble joué par les Allemands, juste un ou deux ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Cercle d'autocar, passionnant. Cet autocar, il faut le voir. Inspiré de l'Anschluss qui a eu lieu mi-mars 1938, pour la première fois, Hergé va clairement identifier le rôle du méchant qui s'appelle Mustklair, contraction de Mussolini et Hitler. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, le crâne aux pinces d'or, on laisse tomber, Étoile mystérieuse, album ambigu, mais ça pour d'autres raisons, deux albums sur l'évasion, les trésors, le secret de la licorne, et trésor de Racable Rouge. Enfin, cette boule de cristal, Temple du Soleil. Ici, ces deux albums font l'objet effectivement d'une actualisation grâce à l'intervention d'un individu qui fera beaucoup parler de lui, qui s'appelle Edgar P. Jacobs, le père de Black et Mortimer, qui va introduire une notion d'extrême réalité et une vision onirique. Alors, cet album de l'or noir, cet album-là, a été commencé en 1940 et s'est arrêté entre les deux. Pourquoi Hergé s'intéresse à complexe facial? Pourquoi? Tout simplement parce que sur l'album Le Temple du Soleil, qui est un album qui a été diffusé en bande dessinée, puis adapté en série, etc., je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin, Tintin, Haddock, Tournesol doivent être châtiés par les survivants des Incas, Et à un moment donné, on leur propose donc de brûler vif sur un bûcher. Mais le chef Inca donne une possibilité à Tintin de choisir la date exacte de sa mort, sur 30 jours. Et Tintin dit, je préfère mourir telle date. Le chef Inca dit, pas de problème, ton souhait sera exaucé. Et au moment où il va brûler, au moment où les rayons du soleil doivent permettre de brûler tout ce groupe, Tintin s'adresse au soleil, il dit, soleil, n'écoute pas le chef des Incas, moi, Tintin, je te demande de ne pas obéir à l'ordre impie de ce chef et de voiler ta face. Et il y aura une éclipse, précisément à ce moment, qui fait que, en plein jour, il fait nuit. Pour le chef Inca, c'est une terreur. Comment ? Le soleil obéit à cet impie. Et il dit, je t'en supplie, je te fais grâce, mais au moins que le soleil revienne. Et Tintin dit, soleil, je t'ordonne de revenir comme avant, et le soleil revient. Cette scène est intéressante pourquoi ? Parce que c'est le point de départ de la recherche de Hergé en matière lunaire. Puisque finalement, cette éclipse qui a sauvé Tintin, Hergé va tout faire pour maintenant se dire, on va mettre en place la conquête de la Lune grâce à cette éclipse. Et donc Tournesol va dire, puisque j'étais sauvé, allons plus loin. Objectif Lune, 1950, prépublication dans le journal Tintin, exactement le 30 mars 1950. Alors, il faut savoir que Hergé est resté en Belgique pendant l'occupation, et il a été un petit peu critiqué, il a été même brièvement incarcéré à la libération de la Belgique. Et en 1945-46, il est un peu paria. On ne veut pas trop de lui. Et un homme va lui faire confiance et va lui permettre de retravailler, d'où l'apparition de Tintin au pays de l'Ormoire. Et en 1950, date importante, il y aura la création des studios Hergé. Grâce aux studios Hergé et à un certain M. Leblanc qui lui donne confiance, eh bien, il va repartir de plus belle. C'est dans ce contexte que Objectif Lune va sortir. Objectif Lune, imaginez, pour la première fois pour Hergé, un livre de science-fiction. Science-fiction qui n'a jamais fait. C'est à la fois le livre de science-fiction première pour lui, et surtout un livre bourré de détails de manière à avoir un maximum de crédibilité. Alors, la conquête de la Lune, c'est un vieux rêve, un vieux fantasme. D'abord, il faut savoir que, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, des premiers articles dans les journaux de l'époque ont commencé à envisager la conquête de la Lune. Deuxièmement, à partir de 1865, Jules Verne intervient et va donner un vernis scientifique à la conquête de la Lune en étant un peu plus crédible. Mais surtout, on va avoir exactement en 1902 un film important que vous connaissez tous, qui est, allez-y, Méliès, Le Voyage sur la Lune. Alors, film en noir et blanc au départ, on l'a connu, et qui a été colorisé dès le départ. Grâce à la restauration du CNC, on peut retrouver maintenant le film en couleur d'origine, recolorisé pour retrouver les couleurs d'origine de Méliès. Et on voit que le fantasme, l'homme, on voit quelqu'un sur la Lune, comment ? Grâce à un canon. Et à ce moment-là, une sorte de gigantesque fusée émanant du canon atterrit sur la Lune. C'est poétique, c'est beau, ça dure un quart d'heure. Dans l'œil. Je vous recommande de le voir, c'est un petit bijou, et de voir le documentaire qui explique comment on a effectué la restauration. Et dans ce contexte, où Hergé se dit quand même, je vais essayer de faire la suite du temple du soleil sur l'éclipse, et donc de retrouver la Lune, il va consulter deux ouvrages. Premier ouvrage, un certain Alexandre Ananoff, qui a sorti le livre L'Astronautique, qui va être lu par Hergé. Et ensuite, il va lire les ouvrages de Bernard Heuvelmans, un scientifique, qui va l'éclairer effectivement sur tout ce qui concerne l'état actuel, en 1950, de la recherche pour aller sur la Lune.
en 1950. Donc il va se documenter, tout doit être crédible, sérieux, pas de science-fiction, etc. Il s'est basé aussi sur un film que je n'ai pas eu l'occasion de voir, La femme sur la lune, de Fritz Lang, en 1929. Et à ce moment-là, il n'y a pas Spoutnik, il n'y a pas l'homme sur la lune, il n'y a rien, il n'y a pas Gagarine. Nous sommes en 1950 quand ça sort, et la conquête de la lune proprement dite aura lieu que le 21 juillet 1969 à autour de 3h et quelques, heure de Paris. Donc, Hergé dira avec beaucoup d'humour, à quoi ça sert de faire un livre de science-fiction si au bout de 15 ans on est rattrapé par la réalité ? À vous dégoûter de faire de la science-fiction. Et pour la première fois, il y aura, après les albums, il y aura en deux parties, mais en prépublication dans le journal Tintin, ça va sortir sur 3 ans. Premier scoop que je peux vous révéler en exclusivité mondiale, la série va prendre du temps. 3 ans. Pourquoi ? Parce que Hergé est en pleine dépression. Et il va carrément s'absenter, sans donner d'informations, pendant près de 18 mois. Donc il y a une grosse coupure. Et le journal Tintin dit, excusez-nous au lecteur, mais Hergé, il n'est pas au point, il n'est pas en forme, etc. Et quand il revient, on voit cette scène où il apparaît, il dit, je demande pardon, je suis épuisé, il est fracassé. Et on voit Tintin, Haddock, tout le monde derrière lui, en disant, alors il faut finir l'album en dessin, allez fainéant, travaille un peu, etc. Donc il fait de l'autodérision. Et il va sortir les deux. Objectif lune. Alors, c'est pas mal parce que ici, il n'y aura pas de suite. Tout notre album, c'est l'aventure. Tournesol, une affaire sur fond d'espionnage de guerre froide, qui n'est pas absente, enfin, qui n'est pas totalement absente de ces albums. On monte un petit peu la première, merci. Coq au stock, le trafic. Ah, ça c'est mon préféré, Tintin au Tibet, en 1960. Hergé est en pleine dépression, d'où l'omniprésence du blanc. Et c'est un album nostalgique, merveilleux, enfin, je vous recommande de l'ouvrir. Mais puis la Castafiore. Alors, vous voyez bien, Tintin fait chut de la main pour dire qu'il va se passer des choses. Problème, il ne se passe rien. Tout est détraqué dans cet album, il ne se passe strictement rien. On est constamment sur des fausses pistes, c'est vraiment un deuxième degré. Aventure pour le 514 pour signer en 1968, et le dernier album complet, Tintin et Picaros, 1976, le dernier c'est un album posthume qui n'a pas le temps de terminer. Alors, objectif lune, dedans, nous avons quoi ? Alors, je ne sais pas si vous rappelez l'émission Qui veut gagner 1 million ? Vous vous rappelez ? Une des premières où il y avait le monsieur qui avait réussi à faire tout juste. Je vous rappelle, il y a pas mal d'années. C'était une des questions d'objectif lune. Dans objectif lune, il y a un personnage qui apparaît. Est-ce que vous vous rappelez lequel ? Un docteur. Le docteur ? Comment ? Alors, professeur Tournesol, mais là c'est un docteur qu'on recherche, docteur Rotule. La question qui a fait gagner l'individu pour la question du million, docteur Rotule apparaît dans Objectif Lune. Et docteur Rotule apparaîtra une nouvelle fois dans la bibliothèque Castafiore dans un télégramme. Donc là maintenant, on va zoomer. Regardez comme c'est quand même, le dessin est très bien fait. Alors, l'histoire en deux mots. Vous remarquez la fusée qui est inspirée directement, allez-y en cœur, de.
Du
V2. Du V2, bien entendu. Le V2, il reprend même la notion du damier, même, à la limite. Alors, il y a une coquille dans l'album. Les couleurs rouges et blanches sont alternes en fonction du dessin. Une erreur qui a été commise par Hergé. C'est la première fois que Hergé va sous-traiter son travail. Il va à la fois mettre en place la conquête de l'espace, via la conquête lunaire, et en même temps, il va faire appel à des coloristes, à des scénaristes, à des détails sur tout ce qui est technique. Et on voit la qualité du dessin. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est Haddock et Tintin reviennent à Moulinsart, au château de Moulinsart, et Tournesol a disparu. Il est parti mystérieusement trois semaines plus tôt. Et ils reçoivent un télégramme du professeur Tournesol en leur demandant « Venez me rejoindre !» Mais ils n'en savent pas plus. Et ils vont partir de Moulinsart, donc de Belgique, pour aller rejoindre la Cildavie, où travaille Tournesol. et ils sont accompagnés par la police secrète, la Zeppo, et Tournesol les a fait venir pour qu'ils puissent, avec lui, Tournesol, concevoir la fusée et ensuite pouvoir partir dans l'espace. Alors, Haddock dit, vous êtes fous, Tournesol, dans l'espace, mais ça ne va pas, vraiment, vous êtes dans la Lune tout le temps, et là, vous voulez vraiment nous y envoyer. Et donc, il y a à la fois toujours le mélange d'anecdotes, d'espions de la partie adverse qui cherchent à tout prix à saboter par un double guidage la fusée. Et là, Haddock lui dit à Tournesol, arrêtez de faire le zouave, arrêtez. Ah. Arrêtez de faire le zouave. Et Tournesol est énervé en doigt. Comment je fais le zouave? Regardez tout ce que j'ai fait, etc. Et il mange la fusée. Donc fusée V2, qui a été la fusée qui a inspiré la fusée Véronique en France, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, cette fusée est bien dessinée par rapport à ça. Donc là, ils vont préparer le départ, mais ils ne savent pas que l'adjoint de Tournesol est un prêtre. Et il s'appelle Dr. Wolf. Wolf, W-O-L-2-F, et ce prêtre va faire venir l'ennemi juré de Tintin dans la fusée. Et ils doivent partir, ils vont partir sur la Lune, mais ils ne répondent plus. Donc, la page suivante. Alors, ici, nous avons une centrale atomique, la pile atomique. Pourquoi ? Hergé a imaginé en 1950, sur la base des témoignages, que la propulsion serait nucléaire. Nous savons, nous, que la propulsion de la grande fusée Saturne V en 1969 n'était pas nucléaire, mais fonctionnait au propergol liquide, si ma mémoire est bonne. Donc ici, on a vraiment regardé le dessin comme il est très crédible, bien fait. Jamais Hergé n'a travaillé dans ces conditions-là. Et on a effectivement une pile qui est censée effectivement donner cette propulsion. Le projet sera abandonné quelques années plus tard par la NASA. Alors, les plans de la fusée. Vous voyez, vraiment à quel point Hergé donne un maximum de crédibilité par rapport à son projet. Alors, dans l'album, le néophyte, c'est Haddock. Haddock qui joue un peu notre rôle à nous. Nous, béotiens, etc. Mais c'est pas possible, ça marchera pas. Et donc, le lecteur qui découvre cette aventure de science-fiction se reconnaît dans Haddock qui pose les mêmes questions qu'il aurait aimé poser lui-même. Et on se retrouve effectivement dans un scénario où Haddock personnifie le lecteur moyen et Tournesol va devoir vulgariser l'information. À aucun moment, on est dans une vulgarisation pédante. À aucun moment, le côté scientifique écrase le côté bande dessinée qui est fait pour les jeunes, encore une fois. Et on a ce souci du détail avec toujours le côté de Hergé très fluide, un peu comme un cinéma ou un film. Quand vous regardez, vous tournez les pages, à chaque fois il y a toujours un petit suspense à la fin de la dernière planche, en disant qu'est-ce qui va se passer. Il y a toujours une mise en mouvement. Et voilà pourquoi les albums de Hergé sont très cinéphiles en tant que tel et ont eu souvent du mal à être adaptés au cinéma, parce qu'on ne retrouve pas cette fluidité. Et là, ces deux albums n'ont pas été adaptés encore une fois au cinéma. Ah, allez-y, stop. Voilà. La question, alors si vous trouvez vraiment, vous gagnez le premier prix, mon estime éternelle. Mission, attention à la question difficile. C'est très difficile. Cette page est spéciale. Pourquoi ? Donc, elle est extraite de l'album, autour de la page 40, je crois. Vous me demandez de non, non, mais parce que la rotation n'est pas la même. C'est la page 40 de l'album à 102 pages. En quoi cette page est spéciale ? Donc là, on voit, il est énervé, ça, d'accord, mais ça, c'est pas spécial. Quel est le clin d'œil de Hergé dans cette page ? Allez, celui qui, ou celle qui trouve, bravo, j'offre 9 jours de formation trigonométrie dans la Grèce de Périclès, d'affilée, je ne vais pas refourguer, à celui ou celle qui trouvera. Allez, laisse trouver. Qui a répondu ? Alors, peut-être un peu légèrement grossier, peut-être, pour moi. Alors, il y a une vignette qui devrait vous inspirer. Laquelle?
Elle est cachée.
On peut encore remonter, mais dire au revoir.
Voilà.
Là, vous voyez tout. Encore.
Voilà, juste à la fin.
Alors. J'attends. Allez, finis, c'est le moment où j'ai envie d'intervenir.
Pas le droit.
Oui. Bien imaginé. Non, c'est bien.
Donc, je souhaite arrêter le stage.
Mais non, attention, si elle trouve, elle peut encore le gagner. Alors, allez-y. Gilbert.
Et là où,
monsieur, allez-y. C'est le moment où jamais, hein. Faites-vous plaisir, prenez ça dans l'histoire. On cherche un clin d'œil de Hergé dans cette planche. Les chiens sont autorisés. Alors, il a fallu placer Milou, effectivement. Donc, oui, on est dans un laboratoire de conception de la fusée et de sa propulsion. Le chien est autorisé. Alors,
il s'est représenté lui-même, peut-être, non ?
Mais on ne remarque pas Hergé, là. Je n'ai pas ça, ça, rien imaginé ici. On ne remarque pas Hergé. Où est-il ? Où est-il ? C'est pas lui.
Celui-ci ?
Non, là ? Non, c'est pas Hergé. Pas bête. Bon, allez, je vous aide. Monsieur, c'est qui ? C'est pas François Hollande.
C'est
trop petit. C'est un peu la grande chose, c'est c'est un peu la grande chose, on est en tête 200%, on va voir. Voilà, on va jouer sur cette scène, le milieu.
C'est Wolf ?
C'est Wolf.
Comment ça, c'est Wolf ? Ah non, 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 c'est pas Wolf. Encore, encore, on va sur la droite. Non, non, c'est pas Wolf.
Mais après, ça va devenir fou, hein.
Voilà, c'est lui. C'est ce monsieur. Qui est-ce ? Non, docteur Hercule, on le voit ailleurs avec une barbe plus épaisse. Avec. Non, non. J'ai des petits clins d'œil.
Je me vois.
Comment ?
J'ai mon bras.
Ah, il y a un mélange entre nous, c'est... Non, non, pas du tout. Personnage très connu. C'est Edgar P. Jacobs. C'est lui. On le reconnaît.
Non, ah, oui.
C'est pas clair. On le reconnaît avec un nœud papillon ici. Normalement.
C'est vrai qu'il avait un nœud papillon.
Nœud papillon. Or, Edgar P. Jacobs. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, Hergé s'était auto-dessiné dans Tintin au Congo, je crois. Avec Edgar Jacob, ils étaient tous là, Maquébéqué, toute l'équipe, et là, il le dessine, c'est lui qui a inspiré cet ultra réalisme dans les albums de Hergé, qu'il n'avait pas auparavant.
Pas évident.
Pas évident, je sais, c'est difficile, je reconnais. Mais il y aura encore d'autres quiz, comme ça, vous allez voir.
Vous avez pas été présenté précédemment ?
Ouais, c'est donc on va
savoir. Surtout que d'habitude, il a le chapitre, Edgar Jacob.
Voilà, c'est ça. Alors, nous avons vu donc plusieurs choses. Dans ce personnage, Valérie vient de le dire tout à l'heure, il y a Wolf. Wolf est un personnage particulier. Vous rappelez l'album ? Alors, Wolf est particulier, il joue le rôle du traître. Et ce Wolf, on aura l'occasion de le voir, c'est à cet album, a la même coïncidence que le Lotus Bleu. Le Lotus Bleu et l'album suivant, On a marché sur la Lune, partagent un même point commun. Lequel ? Comment ? Non, parce que l'Opus Bleu, c'est 1936, et là nous sommes en 1953, comparé le deuxième album. Donc les prix sont différents. C'est. Ah, allez-y. Non, l'Opus Bleu, une seule histoire, et là c'est en deux parties. Hubert, c'est les deux seuls albums, pratiquement, où on assiste au suicide d'un individu. Le méchant Matsuhito dans Lotus Bleu et Wolf qui va se suicider dans On a marché sur la Lune. Or, je rappelle que ça va poser des problèmes, on va le voir tout à l'heure, ça va poser des problèmes parce que présenter un suicide d'un individu, quel qu'il soit, dans un album destiné à la jeunesse, puisque je rappelle que la loi sur la jeunesse était sortie en 1949, posait problème. Et Wolf n'est pas le méchant, c'est pas comme le Matsuhito. Il est à la fois traître, victime, et à la fin, il se rachète. Tout est côté ambigu. Donc l'album qui va suivre celui-là est bien plus ambigu que n'importe quel album qui a été effectué par Hergé. Alors là, de nouveau la fusée en plein détail, on voit effectivement le camion derrière, tout le système qui a été mis en place. Il faut savoir que Hergé n'a pas hésité à travailler sur une maquette grandeur réelle, en proportion, et l'a amené au professeur Pevelmans pour qu'il puisse dire qu'est-ce qu'il y a dans chaque étage. Est-ce que cet étage est crédible, oui, non, et effectivement en trois dimensions. Et le professeur lui a dit, voilà, on peut le faire, pas faire, c'est pas crédible, etc. Et il est allé à Paris pour avoir effectivement directement le feu vert, le blanc-seing de Pevelmans. Et c'est la première fois que Hergé va travailler, mais vraiment au millimètre, en allant se déplacer à Paris, en prenant des photographies, des endroits crédibles, etc., de manière à donner un maximum de cohérence à son sujet. On voit la qualité du dessin. D'accord. Ok. C'est bon. Alors là, ça c'est, elle est magnifique. On voit effectivement le ciel étoilé, le véhicule arrive, la fusée est prête à partir. Voilà. Tout à fait, c'est magnifique. C'est un dessin de pure beauté. Quand je vois ça, là on voit tout le talent de Hergé et de son dessin. Je rappelle que après ses albums, Hergé va tomber amoureux de l'une des coloristes qui va devenir sa seconde femme, qui est l'actuelle femme qui gère l'Empire Hergé. Vous voyez bien alors ? C'est beau, hein ? Alors, à la fin de l'album, le premier, qui était Objectif Lune, la fusée part, emportant avec elle des passagers clandestins. Mais l'oxygène est rare, donc il faut faire attention. Ils ne le savent pas. Ils tombent effectivement dans l'inconscience, la fusée s'en va, et la base, commandée par M. Baxter, dit « Mais allô, allô, répondez, répondez », et personne ne répond. Et donc le premier album s'arrête au moment où on ne sait pas si les héros sont vivants, et qu'est-ce qu'ils vont devenir, et surtout s'ils vont pouvoir revenir sur Terre. C'est une première. Voici donc la couverture, on a marché sur la Lune. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Ici, par rapport au casque, là, c'est visible devant et à l'arrière pour qu'on puisse vérifier l'identité des individus. Alors que les vrais casques qui ont servi de référence au départ étaient ouverts, enfin, visibles de devant mais pas par l'arrière. Là, c'est une nouveauté faite pour les deux du dessin. Vous remarquez le petit char ici, à côté de la fusée. Justement va permettre l'exploration, et il a travaillé effectivement sur la surface la moins accidentée possible, tout comme la NASA avait fait des recherches en 66-67 pour que la fusée Saturne V puisse alunir à l'endroit le moins accidenté possible. Mais Hergé a fait ça avant. Et là on voit effectivement les trois personnages en expédition. Ils ne savaient pas au départ que les deux Dupont sont rentrés dans la fusée. Ils croyaient simplement faire la vérification, et la fusée part, et eux n'ont rien compris. Il y a donc deux personnages clandestins et Dupont. Il y a l'ennemi juré de Tintin, Boris, alias Lorgen. Et il y aura donc l'objectif de récupérer la fusée pendant qu'ils font l'exploration. Alors, dans cette exploration, on a marché sur la Lune. Hergé fait le pari qu'on trouve, on a trouvé une trace d'eau. Alors, c'est moqué de Hergé, oui, c'est faux, c'est fictif, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'en 2009, lors des recherches de la NASA, on est arrivé à la conclusion que dans le passé, la face cachée de la Lune, qui ne reçoit pas le Soleil, a pu avoir de l'eau dans un temps immémorial passé. Ce qui veut dire que l'hypothèse d'Hergé, sur laquelle on s'est longtemps moqué, a pu avoir une base de réalité. Voilà, vous voyez comme c'est beau. Alors, encore un petit peu. Encore, voilà. La fusée. Alors, la fusée, tous les éléments de retournement de la fusée pour allumer sont inspirés de La femme sur la lune, de Fritz Lang en 1929. Et on voit à quel point c'est beau. Alors, vous avez des dessins magnifiques comme ça, où on voit la lune derrière avec le côté accidenté, le relief un peu escarpé, etc. C'est superbe. Et véritablement, on est sur des albums esthétiques cette fois-ci. Compris, effectivement, nous, nous attendons vos instructions et la fusée fonce dessus. Propulsion nucléaire. Voici Wolf à côté, vous voyez. Vous avez Haddock et Wolf. Wolf qui est à la fois le traître, mais victime, parce que c'est un joueur. Et du coup, les espions l'ont tenu en lui payant ses dettes de jeu et en lui demandant des renseignements. Alors Wolf est inspiré par qui? Allez-y, tout le monde en cœur. Comment? J'ai pas compris. Qui est-ce? Quelqu'un que vous connaissez très bien. Klaus Fuchs. L'espion qui travaillait pour l'URSS. Klaus Fuchs, qui a été détecté, arrêté, puis échangé. Ben, Wolf, c'est Klaus Fuchs, le traître. Mais un traître plus sympathique et qui se rachète. Regardez bien, plus bas. Donc ici on descend. Ici on descend par là. Et là regardez bien. Ça y est, j'ai fait quelques pas. Pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité, on a marché sur les lignes. Tintin, Haddock. Donc ici c'est quoi? Je fais allusion à la fameuse phrase des héros de 109 qui ont dit c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et des années plus tard, quand en 109, on aura donc effectivement cette découverte de la Lune. On voit ce fameux dessin très célèbre où on voit Tintin, Haddock et Milou aller à la rencontre de Aldrin, Buzz, etc., Armstrong, et en lui disant « Bienvenue sur la Lune, entendu, on vous passe le relais. » Et Hergé fera plus fort. En 1969, à la demande de Parnatch, numéro introuvable, Hergé va mettre en dessin la conquête non pas de Apollo 11, mais la mission Apollo 12. Et on voit effectivement la fusée Saturne 5, qui est très crédible, hein, en noir et blanc. C'est la seule BD documentaire rédigée par Hergé à la demande d'un magazine français. Il n'y a pas une seule BD documentaire à part celle-ci. Et sur 3 ou 4 pages, Hergé décrit dans le détail la mission Apollo 12, avec la fusée qui s'en va, avec l'alunissage, etc. Très crédible, un dessin superbe, et c'est effectivement dans la foulée de la découverte de la Lune. Et on voit effectivement donc Tintin qui fait son petit message, moins, je veux dire, poétique que ce qu'ont dit les astronautes et les astronautes, mais c'est pas mal.
Il n'y avait pas la télévision pour...
Tout à fait. Alors il faut dire qu'en... Attention, vous parlez donc en 1950.
Oui.
Alors attention, si on est pointu, la télévision, les premiers essais de télévision en France remontent à 1935.
Tout à fait, non, bien sûr. Mais il y a une télévision en direct sur la Lune.
Tout à fait, c'est clair.
1950.
Absolument. Alors regardez, voilà. Alors là, c'est très intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Lorsque vous trouverez ces lignes, j'aurai quitté la fusée. Moi, parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour sortir vivant, arriver vivant jusqu'à la Terre. Quant à moi, c'est la phrase qui a été rajoutée. Quant à moi, peut-être un miracle me permettra-t-il d'en réchapper aussi. Ce qui veut dire que, dans cette affaire, au départ, il ne devait pas ajouter cette ligne. Mais, parce qu'on a dit comment, Wolf se suicide, c'est pas joli pour les jeunes, donc une grande pression de l'éditeur Casterman, et une pression également de certains milieux autour de Tintin. Et Hergé a dû capituler, il ne voulait pas. Wolf, à la fin, va se sacrifier. D'abord, il se bat avec le méchant et accidentellement tue le méchant. Et Wolf se dit, mais si je reste dans la fusée, il n'y a pas assez d'oxygène, on va tous mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir de la fusée et partir dans l'espace en espérant que ceux qui restent auront la capacité d'avoir assez d'oxygène pour revenir sur Terre. Et la phrase, quant à moi, peut-être un miracle me permettra-t-il d'en réchapper. Quel miracle? Je quitte la fusée et alors quel miracle possible? Ça a été rajouté pour faire croire que peut-être il n'était pas mort. Et s'il n'est pas mort, alors à ce moment-là, eh bien, le suicide n'est pas si évident et ça ne choque plus les jeunes lecteurs. Donc cette phrase, il a regretté. Mais il a eu la satisfaction. Comment?
Ce qui veut dire aussi que maintenant la Lune est habitée.
Absolument, oui. La Lune est habitée. Sauf que lui tourne en boucle et devient un satellite à lui seul. Satellite Wolf. Alors, il faut savoir, à un moment donné, on va le voir avec c'est Adonis, hein, je crois. Oui. Il y a des erreurs de l'album. Il met Adonis comme si Adonis allait vers la lune. Enfin, il y a des erreurs de ce côté-là, mais c'est pour l'histoire. Et vous voyez un petit peu comment sont les couchettes. C'était vraiment le projet pour essayer de supporter la pression quand on monte ce côté-là, avec les couchettes qui sont faites spécialement pour amortir le choc. Et là, on voit effectivement les Dupont, l'un pire que l'autre, comme d'habitude, inspiré de son père et de son frère, enfin de son père et son oncle, qui étaient tout à fait prêtres des jumeaux et qui avaient des comportements similaires. Et là, ils essaient de revenir sur Terre. Vont-ils réussir? Suspense est insoutenable, mais in extremis, ils vont y arriver. Et à la fin, effectivement, tout est bien qui finit bien, mais Hergé dira. J'en ai bavé avec la conquête de l'espace, il ne se passe rien, donc j'arrête et je repasse sur des aventures plus terrestres. Et on le verra avec l'affaire Tournesol. Pour bien comprendre ce schéma, pour bien comprendre la conquête de l'espace de Hergé, il faut l'insérer dans le contexte. Alors évidemment, M. Baxter fait penser un personnage très connu qui s'appelle Werner von Braun. Werner von Braun était un jeune Allemand qui, à la fin des années 20, 1928-1929, était passionné par le fait de pouvoir, grâce à ses lectures, faire passer partir une fusée et découvrir la Lune. Il pensait qu'à ça. Et avec une bande d'amis, ils se sont réunis en Allemagne pour tester des petites fusées. Assez rapidement, l'armée allemande, en 31-32, met le grappin sur ses petit génie, on leur dit écoutez, laissez tomber la découverte de la Lune, on s'en fout, ça ne nous rapporte rien. Travaillez sur des fusées susceptibles de transporter des munitions. Alors eux vont accepter, pour deux raisons, par nationalisme, et surtout ils vont se dire à la limite, si une fusée est capable d'envoyer des munitions, peut-être qu'un jour on pourra également envoyer sur la Lune à des fins pacifiques. Assez rapidement, ils vont être embrigadés. Et Werner von Braun va travailler sur les fusées de représailles V1 et V2, tristement célèbres. Alors, les V1 vont tomber sur Londres en 1944, les V2 à l'automne 1944, mais ne changeront pas le cours de l'histoire. Mais les Allemands ont pris une sacrée avance. Et Werner von Braun s'est bien, je veux dire, salé les mains, puisque des dizaines de milliers d'esclaves vont travailler, vont mourir pour les projets fous de Hitler. En 1945, il y a une course entre les soviétiques et les américains à qui mieux pour récupérer ces fameux savants ainsi que leurs dossiers, parce que les nazis ont ordonné à Werner von Braun de détruire leurs dossiers secrets depuis 15 ans et il a désobéi, il les a gardés. Or, ça s'appelle l'affaire l'opération Paperclip. Les américains récupèrent les premiers ces savants et les ramènent directement aux États-Unis. Et lui dit, mais moi je veux reprendre mes études sur la Lune. Non, on s'en fout, on les garde de côté. Et finalement, il s'ennuie, il va un peu bricoler sur une fusée V2, ils ne vont pas faire grand-chose, et c'est le projet concurrent de Werner von Braun qui va être privilégié par les Américains. Malheureusement, le projet concurrent de Werner von Braun n'est pas au point. Et pendant que les Américains perdent un temps précieux, les Soviétiques, eux, vont travailler dur. Et vont mettre en place des fusées de plus en plus performantes, jusqu'au moment où coule le théâtre, au moment même où c'est l'année effectivement de l'astronautique, et bien ils vont lancer Sputnik en 1957. Et là, les Américains sont humiliés. Comment les Soviétiques ont réussi à nous battre? Parce que celui, comme dira de nombreux dirigeants, celui qui mettra le pied sur la Lune, le premier sur la Lune sera le premier en tout. Donc il y a une question de prestige. Les Soviétiques mettent en place Sputnik et très rapidement, ils envoient même un être vivant dans l'espace, la chaîne Laïka, à la fin de l'année 1957, 9 décembre. Les Américains n'arrivent pas, ils sont en retard. Et là, Van Braun dit, coucou, je suis là. Vous m'avez oublié. Moi, j'ai le projet qui... Ça marche. Le projet Jupiter. La fusée Jupiter C, ça peut fonctionner. Et là, enfin, il est entendu et écouté. Et Werner von Braun va pouvoir envoyer sa propre fusée de sa conception et essayer de rattraper le retard. les Soviétiques sont toujours en avance. Ainsi, en 1961, Gagarine est le premier à tourner en orbite autour de la Terre, 108 minutes. Les Américains doivent mettre les bouchées doubles. Et donc, normalement, les Soviétiques devraient être les premiers à aller sur la Lune. Les premiers. Tout le problème va se jouer là-dessus. Kennedy dit, dès 1961, mai 1961, je donne moins de 10 ans pour arriver sur la Lune. Mais attention, il faut être capable à la fois d'envoyer des êtres humains sur la Lune avec une fusée super puissante. La fusée Jupiter n'est pas au point, pas assez pour pouvoir aller jusqu'à la Lune. Ensuite, il faut pouvoir alunir, il faut ensuite pouvoir les ramener. Donc c'est une opération totalement surréaliste, puisque on n'a pas de précédent. Et on a déjà des accidents. Lors d'un accident, les astronautes américains vont mourir. Et du coup, ça va retarder le programme américain. Et les Soviétiques s'approchent de plus en plus vers la Lune. Et si eux réussissent à aller sur la Lune, ben les Américains sont des losers. Et malheureusement pour les Soviétiques, la dernière passe est délicate, ils la gèrent. Et ça permet aux Américains de rattraper, malgré 10 mois où ils ont dû faire des vérifications à cause de la mort des astronautes, de reprendre la main. Et ils vont réussir, les premiers, à se poser sur la Lune avant tout le monde. On parle maintenant que la Chine va envoyer des spationautes sur la Lune, mais les Soviétiques ont été, alors qu'ils avaient bien commencé, ont été largués. Donc dans le match, Wernher von Braun, Korolev pour les Russes, von Braun, naturalisé américain dans les années 55, eh bien ce sont les Américains qui ont gagné. Mais ils ont gagné comment? Alors Wernher von Braun est devenu un héros, on l'a oublié. Le côté compromission pendant la Seconde Guerre mondiale, les esclaves qui ont travaillé dans les centres de Nordhausen, etc. Et eh bien, c'est devenu le père de la fusée Saturne V. La fusée Saturne V est entre autres le fruit de la créativité, de l'ingéniosité de toute l'équipe américano-allemande là-dessus. Et c'est comme ça que, dans ce contexte-là, Hergé va introduire, dans un contexte de guerre froide, dans un contexte effectivement de tension exacerbée entre l'Est et l'Ouest, il imagine la seule aventure de science-fiction qu'il ait jamais conçue. La seule. Alors, ce sont évidemment deux albums pour les adultes, c'est moins pour les jeunes, contrairement à une affaire comme l'affaire Tournesol, où c'est une affaire d'espionnage, c'est vivant, etc. Il y a un peu d'humour qui permet de faire passer la pilule, mais ce sont deux albums adultes. Et moi qui ai connu tous les albums de Tintin très jeune, quand j'ai découvert par hasard ces deux albums, j'avais une douzaine d'années à peu près, c'est vrai que j'ai eu du mal à les lire parce que c'était pas du Hergé classique. C'était pas du Hergé classique. Et pour le comprendre, il faut les relire à des années d'intervalle. Et on ne les comprend véritablement qu'une fois qu'on est adulte. Et là, on prend conscience à la fois de l'avance de Hergé et du fait qu'il a mis en place une science-fiction ultra crédible malgré les incohérences, malgré les anomalies, malgré les impossibilités. Voici ce qu'on pouvait dire sur la conquête de l'espace vue par Hergé. Maintenant, j'attends vos très nombreuses questions. Je vous remercie pour votre attention. Alors, idéalement, au moins 5 questions par personne. On est d'accord? C'est honnête. Allez, je vous écoute. Je bois vos propos. C'est fou, hein?
Et ce qui est marrant, c'est qu'on en a.
Et que?
On en a des souvenirs, tout à fait. Ça a marqué les générations.
Alors, absolument, alors, je confirme. Pour moi, souvent on a discuté avec des amis. Alors, je vais être franc. Tintin, j'ai découvert assez tôt. Et il a plusieurs degrés de lecture. Pour moi, l'œuvre d'Hergé, en matière de Tintin, j'entends, est indémodable. Parce qu'il y a ce côté vivant. L'imagination est au maximum. Et d'ailleurs, j'ai toujours été déçu par les adaptations au cinéma de l'œuvre de Tintin. J'étais déçu. Alors, on fait un petit flashback. On voit Spielberg qui a tourné Le Secret de la Licorne. Moi qui suis un fan de Tintin, mais franchement, j'ai été écœuré. J'ai regardé, je ne veux même pas le regarder. Ça ne m'intéresse pas. La motion capture. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a eu notamment, alors je mets de côté la série de 90-91 qui est pas mal, un petit épisode, mais là aussi un peu qui est passé sous la censure, il y a trois œuvres cinématographiques. Trois œuvres. Première œuvre, devant le cœur, juste avant.
Le lac aux requins.
Pardon ?
Le lac aux requins.
Non, non, avant. Tintin et la Toison d'or.
Ah oui,
la Toison. 1961. Les Oranges Bleues 64, avec le héros, etc. Ça n'a pas été un grand succès. Le lac aux requins, une œuvre originale. Maintenant, je vous pose la question. Au dire de Hergé lui-même, qui était pourtant critique hein, sur la mauvaise adaptation au cinéma, quelle est l'œuvre de cinéma très connue, multidiffusée à la télévision, qui a été reconnue par Hergé comme étant la véritable œuvre? Ah, il n'y a pas Tintin dedans. Mais c'est véritablement l'œuvre où c'est reconnu, où le héros principal, c'est un Tintin plus vrai que nature. Qu'est-ce que, comment alors, là, non, attention, c'est plus facile à trouver. Donc, vous gagnez un prix d'honneur. Comment? Avant, Indiana Jones. Non plus, c'est pas 2001, donc c'est pas 1968, c'est pas 1980-81, c'est 1964. Quel est le grand film, en plus le film que j'adore, où le héros qui n'est pas Tintin, c'est du Tintin idéal? Et Hergé le dit lui-même, pour moi, c'est ce film-là qui est le plus bel hommage qui ait jamais été rendu à Tintin. Quel est ce film? Comment Zorro de Walt Disney le... Non, c'est pas Zorro. C'est pas Zorro. Il est mort en 1983. Non. Continue encore, allez-y. Quel est le film qui est véritablement le plus bel hommage à Tintin? La soupe aux choux. Non, avec une finesse. Non, là. Ah, rappelez-moi ça. Ah, mais c'est pas ça. 1966. Tout simplement, c'est... Réponse dans 6 mois. Non, je plaisante. Tout simplement, l'homme de Rio. L'homme de Rio où vous avez Belmondo qui court comme un dératé. Et quand j'ai vu l'album, quand j'ai vu ce film la première fois, je dis mince, mais j'étais hypnotisé par ce film. J'ai vu peut-être au moins 7 ou 8 fois. Et quand j'ai vu le documentaire sur Hergé, j'ai dit c'est vrai, c'est vraiment du Tintin pur jus. Ah, il court avec, effectivement, il y a de l'exotisme, ça se passe au Brésil, avec des trésors, etc. C'est du Tintin, c'est un mélange du Temple du Soleil, de les boules de cristal, la recherche du trésor. Et ça, Hergé le disait, dommage que j'ai pas pu avoir, effectivement, que j'ai pas pu faire ce film. C'est le seul film qui est le plus honnête, le plus fidèle à l'œuvre de Hergé. Mais je reconnais que, ça je regrette qu'il n'a pas été actualisé. Parce que Hergé a dit avant de mourir, en 71, 12 ans avant, je ne veux pas qu'il y ait de successeur. Parce qu'il le ferait moins bien que moi, et ce serait plus du Tintin. Mais par contre, je regrette parce que tous les autres héros ont été actualisés, Black et Mortimer, Astérix, avec plus ou moins de bonheur. Mais c'est dommage que Spirou, mais Tintin est figé. Alors certes, on a colorisé le premier Tintin au pays de Soviet, mais il n'y a rien. Alors normalement, celui qui a fait Objectif Lune, Bob de Moore, c'est celui qui était prévu pour finir le dernier album tout en bas, Tintin et Love Art. En bas, Alexandre Moine. Et il voulait le terminer, il dit mais je peux le terminer. Et Fanny Rockwell, qui est la deuxième épouse, la coloriste de Hergé et la deuxième femme de Hergé, a dit non. Hergé a dit non, on arrête. Et du coup, le vrai problème, c'est nous on se rappelle parce que c'est vrai que je garde toujours une tendresse spéciale pour l'univers de Hergé, mais les nouvelles générations risquent de méconnaître cette œuvre, puisqu'elle n'est plus actualisée. C'est ça le problème.
J'ai mon petit-fils qui a 5 ans et demi qui regarde quand il est chez moi toute la journée, il regarde, mais c'est fait de la victoire.
Oui, mais parce que vous avez l'album.
C'est magnifique.
Tout à fait. Tout à fait. C'est l'évasion. Alors je rappelle que ce fait la licorne, qui est sorti en 1942-43, on est en pleine évasion. La Belgique est occupée. Et donc il ne faut pas utiliser le terme équivoque qui a lieu, enfin, qui a lien avec l'occupant. Donc on est dans un projet d'évasion pure. Voilà pourquoi les deux albums, Le Secret de la Licorne et Trésor de la Canne Rouge, ont une saveur particulière. En plus, ils arrivent après la grande polémique de l'étoile mystérieuse, c'est vrai. Mais Le Secret de la Licorne, moi je me rappelle, ma soeur l'avait acheté au marché, et je l'ai lu combien de fois. En plus, il y a toute une patine avec le fameux marché, il y a la recherche des trois galions, etc. Et également, l'évocation de la généalogie de Haddock, qui n'est rien d'autre que la recherche généalogique de Hergé lui-même, qui était persuadé d'avoir comme véritable ancêtre ou père ou grand-père. Un monarque, il était sûr qu'il descendait. Il disait un jour à sa sœur, si tu savais de qui on descendrait, ben franchement, je serais plus fier de toi. Et il était convaincu, c'est faux, qu'il descendait d'un roi belge. Et on retrouve cette recherche généalogique dans le secret de la licorne, où il y a une recherche paradoxe de sa propre généalogie. Pour moi, je reconnais que moi, c'est cet intimé que j'aime. C'est cet intimé, c'est vraiment quelque chose, une recherche amicale avec Chang. Chang, qu'on retrouve pour la première fois dans le Lotus Bleu, qui oblige Tintin enfin à ne pas, je veux dire, faire la figuration, mais à faire œuvre utile. Et dans Tintin au Tibet 1960, c'est une véritable œuvre d'humanité. Comment ? Oui, oui. Chang a vraiment existé, puisqu'il y a eu des retrouvailles entre Chang et Hergé en 1981, très peu de temps avant sa mort. Et Hergé était très content. Ah, attends, mais ça, c'est très ambigu. Alors, il y a deux accords ambigus. C'est peut-être un combo pour des raisons très colonialistes. Et l'œuvre mystérieuse, c'est particulier. Ah, pourquoi ? L'œuvre mystérieuse, en deux mots, Hergé essaie de faire quelque chose qui soit un peu apolitique. Et à un moment donné, en gros, il y a un astéroïde qui tombe sur la Terre. Et on est dans un climat de fin de monde. C'est très, très particulier, c'est très, très sombre. Et Tintin va partir avec une expédition composée exclusivement soit de pays alliés à l'Allemagne hitlérienne, soit de pays neutres. Et le méchant, c'est qui ? C'est les États-Unis. On voit bien le drapeau américain à l'origine. Le drapeau américain, c'est le méchant. Le drapeau américain qui sera remplacé dans les œuvres d'actualisation par le drapeau du São Rico, pays fictif, pour ne pas se faire reprocher. En plus, l'étoile mystérieuse, il y a toute ambiguïté où il y a le côté étoile, étoile juive, etc. Et on voit d'ailleurs dans les vignettes qui n'ont pas été reprises dans l'album, une attaque d'un cynisme épouvantable. Là, il dira, je regrette, si j'avais su tout ce qui s'est passé, j'aurais été prudent. Et donc, c'est un album où les méchants sont les Américains, les gentils, c'est les pays de l'Axe ou leurs alliés, et on voit même la caricature même de l'Américain, c'est le côté avide, enfin, c'est vraiment c'est ambigu. Et il a regretté, mais plus tard je regrette, effectivement. Alors, il va changer le nom du méchant. Alors, le premier méchant avait un nom, donc c'est un Américain à consonance juive, et il change le nom, et il s'aperçoit trop tard que le second nom était aussi un nom à consonance juive. Donc finalement, il a voulu changer, mais c'est trop tard. Et l'album est vraiment ambigu, où vraiment les gentils ne sont pas les gentils et les méchants ne sont pas les méchants. Et là, c'est-à-dire cet album-là qui va poser des problèmes à Hergé, alors même qu'il était brillant sur le sable d'autocar. Allez savoir pourquoi. Le sable d'autocar n'a pas été interdit pendant la guerre par les Allemands, alors qu'ils se moquent de Hitler. Le méchant, c'est Mussler. Les méchants sont habillés comme des SS. Il y a une tentative. C'est un Anschluss qui va mal tourner pour Hitler. Et autant les albums comme L'île Noire va être interdit parce que ça part de la Grande-Bretagne, il y avait un méchant, et ils vont interdire aussi un autre album, c'est en Amérique, voilà, parce que ça parle des Américains. Mais le sable d'autocar va être publié en vente libre pendant toute la guerre. Hallucinant. Voilà pourquoi effectivement il y a cette ambiguïté sur cet album jusqu'à aujourd'hui, qui est une sorte de tâche. Et lui-même le reconnaît d'ailleurs dans son œuvre littéraire. D'autres questions, n'hésitez pas, allez-y.
Pourquoi il n'y a pas de fiancé ?
Pourquoi il n'y a pas de fiancé ? Ah, bonne question.
Si, le chien.
Bonne question. Alors, attendez, très intéressant. Alors, attendez, très bien dit. Alors là, si vous trouvez ça, là vraiment je remets en jeu mon stage. Pourquoi il n'y a pas de fiancé ? Pourquoi il n'y a pas de femme ?
La seule femme, c'est la personne.
D'abord, il y a deux choses. Un, je rappelle que la loi de 49 fait en sorte qu'il y a une sorte de censure sur les œuvres liées à la jeunesse. Et donc, du coup, on pouvait difficilement concevoir qu'il y ait une fiancée ou une femme dans un album de ce style-là. Oui, mais c'est vrai. Mais là, la différence, c'est qu'on est directement sur la loi de 49. Et Hergé a déjà une maille à partir avec la censure, avec ce qu'il a fait pendant la guerre, et il n'a pas voulu en rajouter. Par contre, sa véritable fiancée, c'est qui ? C'est Milou.
Pourquoi Milou? Parce que Milou... Comment? Non, mais j'ai plus loin. Milou, c'est le surnom de son premier amour. Il avait une jeune femme qu'il aimait de manière passionnée et elle avait dit une fille qui s'appelait Milou. Il a dit, comme c'est particulier, cette femme-là, vous allez voir pourquoi elle a fait ça, cette femme, elle a quitté et donc il a voulu donner le nom de Milou à un chien fidèle, précisément pour évoquer, d'après lui, une femme qui lui a été infidèle. Donc elle avait un fiancé, c'est Milou. Diminutif. C'est fou, hein? Comment? Non, parce que pour lui, c'était le fait de dire, il y a ce côté, on le voit derrière les Dupont. Les Dupont, c'est le côté, le père et l'oncle. Tournesol, c'est un professeur, etc. On retrouve les grands personnages. Mais le fait de donner, je veux dire, le nom d'une infidèle, entre guillemets, à un chien qui est seulement la fidélité, c'est faire un chien à sa chienne, quelque sorte.
Elle avait du chien.
Comment?
Elle avait du chien.
Tout à fait, absolument, oui. Sans la castafiore. Non. Et la castafiore, c'est qui? La castafiore, c'est, je caricature à peine, c'est la calasse. C'est la calasse. Non, mais la calasse dans ce sens, etc. Comment?
La calasse posait 40 kilos.
Oui, non, mais symboliquement, oui, ça fait symboliquement. Attendez, dans vol 714 pour Sydney, Caridas, qui est le propriétaire de la compagnie, c'est qui? C'est Dassault. C'est Dassault. C'est d'accord? C'est Dassault. Al Capone, lui on le voit en chair et en os dans Tintin en Amérique. Les autres personnages,
non, c'est pas Picard.
Comment?
C'est pas Picard.
Oui, bien sûr, c'est Picard, évidemment. Chacun a, et le on s'appelle Philippides, l'étoile mystérieuse, celui qui disait la fin du monde, il se moque d'un ami qui s'appelait Philippe, qui avait toujours le mal partout. Il dit oui, la guerre va éclater, la guerre va éclater, il y en a marre, oiseau de mauvais augure, et il a traité dans sa fin. Maintenant, ah voilà, là il y a une bonne question, mais à part Philippe, je crois qu'il a la réponse, c'est pas sûr. Là, ça peut remonter un peu plus. Le Grand Prix. Ici, dedans, dans cet album, il y a une histoire passionnante. Il y a un personnage clandestin. Qui est-ce? Et dans Vol 714 pour signer, il y a un personnage clandestin.
Celui qui communique avec les extraterrestres?
En effet, mais lui a une base réelle, mais ce n'est pas un personnage clandestin, puisqu'il est identifié. Quel est le personnage clandestin à la planche, je vous aide, hein, la planche 62, la dernière planche, la dernière page, de Vol 714 pour signer? La première vignette, une des premières vignettes de la planche 62. Un personnage clandestin. Qui peut me dire ça? Là, c'est le grand prix, hein. Philippe, tu peux même jouer. Celui qui sait qui trouve, voilà, bravo. Hein.
C'est le commandant.
Comment?
De la soucoupe volante.
Après.
C'est le commandant de la soucoupe volante.
Non. Il y a un personnage clandestin, une histoire fabuleuse que personne ne connaît. La preuve. Alors, allez, je vous écoute. Non?
Non, on les lit souvent. Enfin, moi, je les lis souvent.
Alors, pratiquement personne ne le connaît. En exclusivité mondiale, voici le personnage secret dont personne n'a jamais entendu parler. En 1962, un jeune homme écrit une lettre à Hergé en lui disant, écoutez, monsieur, je suis un fanatique de Tintin, je ne jure que par Tintin, je rêve d'une chose, je serais tellement heureux si je pouvais pénétrer l'œuvre de Tintin et, encore mieux, avoir la possibilité de serrer la main du capitaine Haddock. J'en rêve. Ce serait tellement beau. Et on voyait qu'il était malheureux, le bonhomme, et vraiment, il avait une exutoire dans l'univers de Hergé. Est-ce que je peux effectivement serrer la main de Haddock? Je serais tellement fier. Hergé lui écrit, il dit, écoutez, votre lettre m'a ému. D'autres personnes ont fait des demandes similaires, mais vous êtes sincère. J'ai réfléchi. Alors, à la condition que vous ne soyez pas lourd, que vous ne demandez pas 50 fois « je veux », que vous soyez patient, eh bien, je vais vous intégrer dans l'univers de Tintin. Mais vous n'en parlez à personne. Et le monsieur lui répond « merci, Hergé, je vais attendre, ce sera le plus beau jour de ma vie. » Et Hergé réfléchit. C'est bien beau, où est-ce que je vais l'intégrer? Alors, au départ, je vais l'intégrer dans les musées de la Castafiore. Mais il ne peut pas. Il peut pas. L'histoire ne le permet pas. Et il prépare vol 714 pour signer. Il s'est dit, là je vais l'intégrer. Dans l'ultime planche, la page 62 en haut, le journaliste serre la main du capitaine Haddock et l'interview. Ce journaliste, c'est le jeune homme, tel quel, à la pré-photo, et il va envoyer, Hergé va envoyer cette planche originale au jeune homme, vous envoyez, j'ai tenu parole, 3 ans plus tard. Et les années passent, et le jeune homme ne répond pas. Je sais pas, moi j'ai reçu ça, merci beaucoup, je suis heureux, pas de réponse. En 1983, Hergé disparaît, sans connaître la fin de l'histoire. Mais nous, on va la connaître. Et oui, le jeune homme, 3 ans après sa première demande, s'est suicidé. Il a attendu, il n'a pas pu tenir. Et donc, Hergé n'a jamais su que le personnage clandestin qu'il avait créé, inspiré de cet admirateur si mystérieux, il n'en a pas profité. Il s'est suicidé. Après 3 ans, il n'a pas pu tenir. Et c'est ce personnage qui rentre à la page 62 tout en haut, en serrant la main du capitaine Haddock et en interviewant. Enfin, c'est bizarre. Il tend le micro et il serre la main. C'est bizarre. Il y a un côté atypique. Et bien, cette histoire est très peu connue. Et ça explique effectivement ce personnage qui figure dans Vol 714 pour Sinistre. En réalité, je me suis basé sur ceux qui ont fait des recherches biographiques sur Hergé. Je pense à Souline, je pense à d'autres personnages comme Michael Farr, et qui ont fait des recherches, et ils ont réussi à identifier l'individu. Et en faisant des recherches, ils sont aperçus qu'il s'est suicidé. Ils ont retrouvé des lettres, à la fois chez Hergé, et le double dans la famille de cet individu. C'est comme ça qu'on le sait. C'est très peu connu. On en trouve une ultime trace dans le... c'est pas hors série, mais dans le dossier spécial consacré à Tintin, lors de la sortie de Secret de la Licorne par Spielberg, dans le magazine Le Point. C'est comme ça qu'on en retrouve.
Vous dites qu'il lui avait envoyé donc, la page originale.
Oui.
La famille a dû le vendre, je suppose.
Alors,
vous avez vu combien ça coûte les planches?
Ah oui, c'est...
1,5 million.
Tout à fait, absolument. Tout à fait. Alors, l'histoire ne le dit pas, mais... c'est à la fois, j'ai tendance à croire, sauf élément contraire, que la planche est encore dans cette famille. Et ça vaut une fortune. Oui.
1,5 million d'euros.
Tout à fait. Des connaissances de. Absolument, absolument. Alors vous parlez de l'équipe des ingénieurs, vous parlez des spationautes. Oui, oui, oui. Oui. Alors, au moins, pour les astronautes, je suis prudent, mais l'équipe de recherche qui a travaillé pendant des années, on ne le voit pas ici, mais le centre de recherche dans Objectif Lune ressemble curieusement au projet Manhattan. C'est la même chose. Les Américains ont lu les albums de Hergé, notamment ces deux-là, et on voit un clin d'œil, parce que parfois la NASA va même faire un petit clin d'œil en disant finalement, voilà, on a mis en exergue les plans initiaux de Hergé. Donc, une partie des ingénieurs et des savants ont bien lu Hergé, tant plus qu'il était déjà traduit en américain, enfin, il est traduit dans plusieurs langues, en langue régionale, langue provençale, enfin, il y a au moins des dizaines de langues, il avait bien lu.
Il n'y a que les dupons qui sont un peu modifiés.
Que les
Et ils ont les cheveux qui poussent. Hein.
Attention.
Là. Parce qu'ils ont pris des comprimés.
Là, il y a un problème. Et là, et ça revient ici. Là, quoi, ça peut aller plus ou moins. Ben,
il faut des bulles aussi.
À la limite, c'est plus compliqué parce que, je veux dire, pour moi, dans l'univers de Hergé, autant, je veux dire, franchement, ces jours, vous voulez rire, vous lisez Vol 714 pour signer. Les deux premières pages, c'est à mourir de rire. Alors quand je lis Tournesol, qui est sûr comme un beau. Et en plus, je le vis parce que j'ai personne dans cet endroit, et qui lui dit, mais comment nous sommes arrivés, mais non, on n'est pas arrivés. Vous êtes sûr, mais non, on n'est pas arrivés. À la fin, il s'énerve. Comment on est arrivé, puis on n'est même pas arrivé, vous moquez de moi, etc. Et c'est tordant, c'est les premières pages, c'est en pleine actualité. Et, alors que les Dupont, c'est un peu comme les Rapetous, moi, ils ne font pas rire. Les Dupont, je trouve que c'est lourd.
Tournesol, j'aime bien. Hergé, j'aime bien. Haddock, c'est le personnage le plus... Alors, quand on voit l'univers de Tintin avec le recul, ils sont tous fous.
Les jurons de Haddock, c'est extraordinaire. Les jurons de Haddock...
Ah oui, absolument. Mais ils sont tous fous. Je veux dire, Tintin ne ressemble à rien. Il est rond, etc. C'est du vent. Tout le monde peut s'identifier à lui. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'identification marche. Parce qu'on est tous Tintin quelque part. Haddock, il est plein de vie, plein de défauts. Il boit, etc. Mais il est énormément humain. Mais pendant du recul, ils sont tous fous. Tous. L'un plus fou que l'autre. Tournesol, il est bizarre. Les Dupont, franchement, c'est pas...
Les fous dans les guerres.
Ils sont tous spéciaux. C'est Raphaël en pion, bizarroïde. Voilà. Alors maintenant, dans les films de la Castafiore, c'est assez comique, puisque tout se passe dans le château de Moulinsart. Et à un moment donné, on croit voir qu'il y a une affaire d'espionnage, il ne se passe rien du tout, mais rien. Et tout est fictif. C'est une très belle critique de l'apparence et de la réalité. Très belle critique. Alors moi, j'ai beaucoup aimé dans cette affaire où il y a toujours le téléphone qui sonne, ça ne marche pas, c'est pas la boucherie sans eau, etc. C'est ce côté. Et c'est fabuleux parce que dans cette affaire, et à la fin, il arrive à remarcher, il s'est cassé la jambe. Et à la fin, il se recasse de nouveau la jambe. À la fin, enfin, c'est rien ne marche, la télévision ne marche pas.
Un artisan qui vient jamais.
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et je trouve, j'ai jamais trouvé. Alors, après, c'est vrai que j'ai redécouvert Black et Mortimer un peu plus tard, avec notamment, pour moi, l'album à voir et à revoir parce que c'est la quintessence de Black et Mortimer. Je rappelle, Garpe Jacobs était le compagnon de route de Hergé. Et un jour, Black et Mortimer, enfin, Garpe Jacobs a dit si vous voulez. Moi, je vais travailler sur Tintin. Il y aura Hergé et puis Jacobs pour les créateurs de Tintin. Et Hergé dit non. Il n'y a qu'un seul créateur de Tintin, c'est moi, Gaston. Et c'est comme ça que Garpe Jacobs va fonder Black et Mortimer. Mais s'il y a un album que je vous conseille de lire, fabuleux, c'est. Oui. Non, mieux que ça. Le piège diabolique. 1962, qui a eu une maille à partir avec la censure, lui aussi. Mais j'adore cet album, une grande maturité, où on voit en gros. On remonte le temps et dans un bistrot, je crois que des personnes discutent, c'est quoi le bonheur? Alors qu'une partie des gens disent, le bonheur c'était mieux avant, ah, c'était bien avant, on mangeait sainement entre guillemets, il n'y a pas de pollution entre guillemets, etc., etc. Donc il y en a des gens qui idéalisent le passé et nous disent non, demain c'est le paradis, demain ça sera le paradis. Et on voit donc entre ceux qui disent le passé c'est le paradis, le futur, et à la fin de l'album on s'aperçoit que le vrai moment de bonheur, c'est l'instant présent. Fugace. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. On le redécouvre que maintenant. Mais il a eu des critiques violentes contre lui. Ça peut savoir. Et je trouve qu'il n'y a pas la même poésie que pour Tintin, mais c'est la seule bande dessinée à mes yeux qui rivalise avec le côté nostalgique de Tintin. Et ce qui n'a rien à voir, ça c'est quand j'étais tout petit. Moi, j'ai appris à mes premières bandes dessinées, c'était effectivement Pif. Alors, tout le monde avait connu Pif, qui était l'ancienne collection de Vaillant, en 1969, à la création de Teddy Ted, Rahan, Docteur Justice, etc. Et Rahan, qui était un homme préhistorique, etc., qui s'appelait la justice humanité, c'était un héros pour moi. Et en matière de bande dessinée, ça en enlève pour moi Teddy Ted avec une qualité de dessin que j'ai retrouvée nulle part. Et j'ai su des années plus tard pourquoi le créateur de Teddy Ted, enfin un des dessinateurs, avait un ranch, une sorte de ranch, en plein centre de la France. Et jamais je n'ai vu des chevaux aussi bien dessinés. Les cols sont bien dessinés, mais on s'y croirait. Et pour moi, il y a Teddy Ted, Raon, Tintin, la Clémentine. Alors après, je peux lire d'autres bandes dessinées, mais je n'arrive pas, je n'ai pas la même magie. J'aime dans Astérix, la Zizanie, que j'ai lu au moins 10 fois. Moi j'éclate de rire avec le méchant qui détritus, qui met la pagaille. Ah, et souvent je le vois, quand il va être abordé par des pirates, il y a détritus qui est là, il dit tiens, quel sujet? Il dit comment, quel sujet? C'est l'abordage. Comment? Mais je donne 216 sesterces à ce monsieur, et du coup il se tue entre eux. Il n'y a pas un zizani.
C'est le domaine des dieux aussi.
Oui, mais un cran en dessous de la zizanie. Voilà. Et donc du coup il manque quelque chose. Pour Tintin, alors du début jusqu'à la fin, malheureusement, c'est un univers masculin. Et donc, en grande majorité, ce sont les garçons qui l'ont lu, à tel point que quand j'ai voulu faire Tintin pour un club féminin lié à Air France. Bon, ça a bien marché, mais le problème, ils m'ont dit, vous savez, Tintin, c'est connoté masculin. Et sur 100 personnes, une statistique, la grande majorité des lecteurs de Tintin sont des garçons. La grande majorité. Les filles restent une minorité jusqu'à aujourd'hui. Et même quand je fais des conférences, elles se sentent étrangères à l'univers de Tintin. Étrangères. Donc, moi, j'avais eu à peu près une vingtaine de dames. Et elles m'ont dit, c'est passionnant comme histoire, mais pour moi, Tintin, c'est quelque chose qui est en dehors de moi. Je ne m'identifie pas. Alors que pour moi, Tintin, c'est ma jeunesse. Premier degré de lecture, deuxième degré de lecture, troisième degré de lecture. Alors, je vous propose de faire juste une petite annonce personnelle, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon ? Une annonce personnelle, ça vous tente. Le jeudi 23 novembre, pour la première fois, j'aurai l'occasion de privatiser un théâtre. Et je vais... donc là, j'ai fait une première avec des images. Pendant que je fais ça. Donc je vais faire la face cachée du cinéma américain, Hollywood et la censure, avec un demi-siècle de cinéma américain entièrement revu, avec diffusion d'extraits de films. Donc là c'est des images fixes, là c'est des extraits de films, avec les commentaires des années 20, 30, 40, 50, 60. Ça aura lieu à l'Atelier des Arts, 133 à Lucène Marguerite, jeudi 23 novembre. Ceux qui sont intéressés peuvent se rapprocher de Valérie ou de Gilbert pour avoir mon numéro de portable, ils pourront vous le communiquer. Réservation obligatoire, ça c'est un point important. Alors, je commencerai à 15h, mais je recommande de venir à 14h30 pour que je puisse, là je vais tout faire, je vais faire l'ouvreur, 8€ l'entrée, je fais l'ouvreur, l'accompagnateur, le quiz, un voyage à gagner, pour de bon. Là je lance le coup, un voyage à gagner. Alors, type de question, on va voir si vous êtes capable. Le premier film français en couleur d'origine. Allez-y en cœur.
Silence dans la salle.
C'est bon, donc j'ai la chance pour jeudi prochain. Enfin, c'est ça que j'ai testé en grandeur réelle. Le premier film en français en couleur, 1947, Pays Basque. Pays Basque. Comment ? Non, noir et blanc, 45. C'est.
Avec,
oui ?
Avec les mariages.
L'autre, l'équivalent. On brûle.
Guettari.
L'autre. Alors c'est quoi les titres? Vous brûlez, bravo. C'est Dasari.
Ah, ben.
Alors le titre c'est, allez-y, rentrez dans l'histoire si vous trouvez.
Non.
Non. Le mariage de Ramuncho.
Ah oui, Ramuncho.
Alors voilà.
Eh oui.
Ben, c'est une question que je poserai à la fin. Et deuxième question, enfin deuxième point, on est en train d'en discuter, on verra bien. On rêve, on verra bien, vous me direz si vous êtes d'accord sur le thème. D'envisager, ça c'est du très gros travail, de faire la conquête de l'espace au cinéma. Avec une quinzaine ou une vingtaine de films, et vous devrez deviner les extraits de films, de quel film c'est extrait, et je raconterai l'histoire du film, les anecdotes, etc., etc. Et donc là, il faut compiler tous les films, enfin pas tous, mais au moins les principaux qui ont un trait avec la réalité. Donc il y aura effectivement Gagarine, Les Femmes de l'Ombre, Les Tocs des Héros, etc., voilà, plein de films. Donc il faut que je récupère les films, que je les découpe. Comme ça, vous aurez des extraits. Et là, ça sera un festival sur peut-être 10-15 films à voir, qui illustre la conquête de l'espace Apollo 13, bien sûr.
2001.
Comment ?
2001.
2001, l'Odyssée de l'espace, Space Cowboy. Et là, par contre, alors si vous trouvez tous les films, là, il y aura vraiment le voyage à gagner.
Très bien.
Oui, moi je savais, il faut appeler pour rapatrier, c'est quand même dangereux. Je ne voudrais pas avoir de passion sur la conscience. Par contre, un voyage.